Je suis scandalisé de ce que je viens d'entendre.
Je suis souple dans mes baskets.
Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
Je vous ai compris.
Alors, on va jouer aux devinettes. Si je vous dis régime semi-présidentiel 1958 et Charles de Gaulle, vous me dites...
Cinquième République.
Bingo, la Cinquième République. Wow. Notre chère Cinquième République. Et j'ai envie de dire, la Cinquième République est morte. Vive la Cinquième République. Notre chère Cinquième République, enfant de Charles de Gaulle et de Michel Debré, née du chaos de la Quatrième République empêtrée dans les conflits coloniaux et l'instabilité d'un système parlementaire moribond, depuis 58 ans, elle a tenu bon, la Cinquième, et si elle tenait encore un peu, elle pourrait battre le record de longévité détenu par sa lointaine cousine, la septuagénaire Troisième République. Mais... la cinquième ne fait pas l'unanimité, loin de là. Déjà, Mitterrand parlait de l'exercice du pouvoir par De Gaulle comme d'un coup d'État permanent. Car il est vrai que notre constitution pourrait ressembler à l'expression du narcissisme sans limite d'un chef de guerre qui n'avait pas vraiment apprécié qu'on ne lui taille pas un régime politique sur mesure dès 1945. Bref. Car notre chère République a des airs de... monarchie présidentielle, qui puise sans doute son origine dans le mythe français du sauveur charismatique censé arriver comme le messie à échéance régulière pour faire renaître la grandeur de la France, comme avec Napoléon et De Gaulle. Il suffit de voir à quel point l'image de Mitterrand, tonton, plane encore dans nos consciences, même pour ceux qui n'ont pas vécu sous ses 14 ans de règne présidence. De surcroît, le renoncement de François Hollande en décembre a suscité des réactions paniquées, car en effet, c'est une première sous la Ve République qu'un président choisisse de ne pas se représenter. J'ai même vu qu'on avait titré sur l'abdication de Hollande. Oui, abdication, comme un roi ou un pape. Car même si un président ne peut se représenter qu'une fois à l'élection présidentielle depuis 2008, on attend quand même qu'il veuille s'attacher à sa fonction. On aime les hommes politiques qui s'accrochent à l'infime particule de pouvoir possible. De Gaulle a claqué la porte en 1946 pour revenir triomphalement 12 ans plus tard. Mitterrand est entré en politique en 1947 et s'est présenté en tout 4 fois à l'élection présidentielle comme Jacques Chirac. Sarkozy et Valéry Giscard d'Estaing ont perdu, puis ont essayé de revenir avec le succès qu'on leur connaît. Bref, étrangement, on ne retient pas Jospin, qui a délibérément décidé d'arrêter la politique après sa défaite de 2002. On ne prend pas pour modèle sur ceux qui considèrent que la politique n'est pas un sacerdoce qu'on tient à vie. Bref, je reviens à notre chère Ve République. Que lui reproche-t-on ? Une surpersonnalisation du pouvoir d'abord, avec la primauté donnée au pouvoir exécutif. Surtout que le passage du septennat au quinquennat a perturbé la fonction première du président, qui se confond bien souvent avec le Premier ministre, sans l'être. Et c'est l'élection présidentielle qui concentre l'attention de tous. Et cette émission en est aussi la preuve. Et l'élection législative, pourtant au cœur du processus démocratique, est reléguée à la seconde place pour entériner le vote qui a eu lieu un mois avant. Jamais une élection législative n'a désavoué, voire même un peu contrarié, le résultat de l'élection présidentielle. La majorité présidentielle sort toujours largement vainqueur. Puisqu'on parle des législatives, on reproche aussi à notre Constitution sa capacité à favoriser les gros partis, grâce au scrutin uninominal à deux tours, qui exclut de fait de la représentation nationale un certain nombre de tendances politiques. Je terminerai avec le Sénat. Le Sénat dont on doute de plus en plus de l'utilité, si tant est qu'on n'ait jamais cru qu'il en avait une. Petit quiz.
Si, je vais revenir dessus tout à l'heure.
Petit quiz. Savez-vous combien d'années le Sénat a eu une majorité de gauche en 58 ans ?
Ah, c'est depuis la Ve République ?
Sur l'ensemble de la Ve République, combien d'années le Sénat a-t-il été de gauche ?
Je dirais...
Tu veux dire de gauche
Avec une majorité de gauche.
Assise sur la moitié gauche de l'hémicycle.
C'est ça, voilà.
C'est déjà les élections sénatoriales, je vais faire tous les...
Je crois que c'est tous les 3 ans, mais c'est un renouvellement par tiers.
Ah oui, par tiers, c'est ça. Non, moi, je dirais moins de 10 ans. 4 ans, ouais.
0.
Eh bien, c'est Rémi qui est le plus proche. 3 ans. de 2011 à 2014.
Oula.
Et c'est tout. Voilà. Je vous laisse réfléchir là-dessus, sur la question de la représentativité, sachant que même sous les présidences de Mitterrand et sous la gouvernance de Jospin, on avait un Sénat à droite, voire au centre. À gauche, c'était Bell, qui était président du Sénat de 2011 à 2014, et c'est tout. Bref. Personnel politique vieillissant, siège verrouillé, mode d'élection indirect et un peu ésotérique, le Sénat n'a pas bonne presse et honnêtement, je ne sais pas s'il nous manquerait s'il venait à disparaître. Mais comme nous sommes en campagne présidentielle, la campagne par excellence, certains candidats ont décidé d'en finir avec la 5e pour passer en toute originalité à la 6e République. Et c'est surtout à gauche que germe cette idée, car la droite, qui se croit encore l'héritière de Gaulle, semble considérer que la Constitution est intouchable. Jean-Luc Mélenchon et Arnaud Montebourg en ont fait leur cheval de bataille. Tous les deux veulent réformer le Sénat. Mélenchon veut tout bonnement le transformer en Assemblée populaire. Et Montebourg souhaiterait y intégrer une dose de tirage au sort, d'une centaine de citoyens tirés au sort, comme ce qui peut se faire notamment en Irlande. Les candidats, donc, on retrouve généralement de grandes idées comme la limite du cumul des mandats dans le temps, la limitation du pouvoir présidentiel, notamment en ce qui concerne les nominations, la responsabilité des ministres devant l'Assemblée nationale, ça c'est dans le programme d'Arnaud Montebourg, ce qui voudrait dire qu'un ministre serait responsable devant l'Assemblée et qu'il pourrait donc être destitué par l'Assemblée nationale sans pour autant destituer l'intégralité du gouvernement. Suppression du 49-3, dont on a beaucoup parlé. Élection législative en partie à la proportionnelle. Voici les quelques propositions qu'on peut trouver pour repenser la Constitution. Et je vous laisse réfléchir là-dessus. Je terminerai sur un point. On parle beaucoup du clivage gauche-droite pour prouver son existence ou son obsolescence. Je crois qu'il est encore tenace et qu'il se voit dans le rapport à l'exercice du pouvoir. La droite, FN compris, a toujours mis l'accent sur une sorte de lien de légitimation qui unit l'élu à l'électeur, dans la lignée de la vision napoléonienne du pouvoir. Ce dernier n'a de compte à rendre qu'au corps électoral et surtout pas aux niveaux intermédiaires. François Fillon veut présider par décret au début de son mandat, considérant que son élection vaudrait légitimation des mesures qu'il compte adopter. Marine Le Pen veut gouverner à coup de référendum, considérant que seul le peuple, réel ou fantasmé, doit avoir son mot à dire car ses représentants sont par principe suspects et coupables. C'est bien le rapport à la légitimité démocratique qui scinde le spectre politique. La droite croit à la légitimité personnelle, issue du suffrage universel, dans le rapport personnel au peuple, considéré comme un groupe cohérent. La gauche, ce qu'il en reste, miserait sur la représentation du peuple et la capacité graduelle à prendre en charge une fonction politique, et donc à se politiser lui-même dans une ascension politique, qu'elle soit directe ou indirecte. Je terminerai en disant que Mitterrand avait su se couronner roi des Français et que Hollande s'est laissé prendre au jeu sans s'y être préparé et que le jeu a sans doute gagné. Avez-vous des commentaires sur...
C'est pas facile de dire merci beaucoup Mathias pour ta chronique.
Non, je ne vais pas me remercier moi-même, je n'ai pas ce degré d'ego comme toi Rémi. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur notre chère 5e République ou même des idées pour une 6e République démocratique, renouvelée
Le président par hologramme.
Comment?
Non, je fais référence aux nouvelles foudroyantes qui nous arrivent du côté de Jean-Luc Mélenchon, qui a trouvé le moyen de se dédoubler.
Ah oui, il sera d'ailleurs à Lyon en février, début février, c'est ça?
Avec son hologramme.
Macron à Lyon le 4, Mélenchon à Lyon le 5, Marine Le Pen le 4 et le 5.
Ah oui. Parce qu'elle aussi, elle se dédouble.
Non, mais elle est là pendant 2 jours.
Bon, ne sortez pas de Lyon à ce moment-là, alors.
Dans 2 semaines, tu fais une oraison funèbre de la 5e République
C'est ça.
Je crois que ça allait partir comme ça au départ, ça allait être...
Mais c'est vrai que la 5e République est morte, vive la 5e République. On est toujours dans le côté monarchique de...
Mais oui.
Ça fait longtemps déjà qu'on propose une 6e République. Ségolène Royal, déjà en 2008, proposait.
Non, mais je crois qu'on propose une 6e République depuis que la 5e République est née. Mais...
Oui, bon.
Mais le problème, c'est ce qu'on met derrière. qu'est-ce qu'on met derrière une 6ème République ? C'est juste pour faire du rafistolage d'un truc qui marche plus.
C'est quoi déjà le bouquin de Mitterrand en 65 ?
C'est le coup d'État permanent.
Le coup d'État permanent. À méditer.
Mais je me souviens d'un manuel d'histoire où on avait d'ailleurs la couverture du coup d'État permanent de Mitterrand, et ensuite une caricature de Mitterrand après qu'il ait été élu président de la République, où c'était Mitterrand en Louis XIV avec une perruque de rose. Pour montrer que Mitterrand avait su se donner la prestance d'un roi élu, en fait.
C'est beau.
C'est beau. Tu voulais dire quelque chose, Pierre ?
Ouais, est-ce qu'on serait obligé de l'appeler 6ème République ?
5ème bis, ça fait un peu moche.
Mais on pourrait pas faire autre chose, genre Nouvelle République ou...
Mettre un nom de fleur, comme dans notre pays, la République des Chardons.
Voilà, par exemple.
Disons qu'il y en a eu une, il y a eu la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième.
On peut l'appeler la République Populaire.
Voilà. Il y a un peu dans les noms, quoi.
T'as pas parlé de démocratique ou populaire de France. T'as pas parlé de populisme dans ton... Enfin, sur le rapport des...
Oui, c'était sous-entendu, parce que le rapport qu'on entretient à ce qu'on considère être le peuple, si tant est que le peuple puisse se comprendre comme quelque chose d'uni et un groupe cohérent, c'est du populisme, parce que... Et ça pose la question du référendum, que certains prennent comme le plus haut niveau de démocratie possible. Ça doit être nuancé, je pense.
Il faudrait déjà que les gens sachent de quoi ça parle, le référendum. Ce qui est assez peu le cas quand on regarde les derniers référendums qu'il y a eu.
Je ne ferai pas un procès d'intention aux votants, dans le sens où, en disant, de toute façon, ils n'ont rien compris, c'est des bœufs. Et... C'est vrai que...
C'est pas ça non plus, c'est juste que le référendum, c'est aussi une manière de comment on le présente. Par exemple, autour du Brexit, il y a eu des mois et des mois et des mois de négociations au sein du Parlement britannique pour savoir quelle allait être la question, quel mot on allait mettre dans la question du référendum.
Oui, mais après, c'est vrai que quand on regarde aussi l'histoire du référendum, c'est Napoléon III et le plébiscite. Donc, ça pose aussi la question... Je vous pose une question, à condition que vous dites oui.
Ça pose aussi toute la question de l'opinion publique, en fait, de ses manipulations, comment elle est influencée et tout ça. Enfin...
Puis le fait qu'on soit aussi peu. Qu'on ait aussi peu confiance dans les instances de représentation. Pourquoi élire une assemblée si on considère que l'assemblée n'est pas capable de voter ?
D'ailleurs, même le gouvernement considère qu'elle n'est pas capable de voter, et c'est écrit dans la constitution de ta fameuse 5e.
Oui, après, le 49-3, c'est un autre...
Ah, mais je ne parlais pas du 49-3.
Ah oui.
Enfin, si.
Oui, mais parce qu'en soi, quand il y a 49-3, il y a aussi en face la possibilité de censurer l'intégralité du gouvernement. Ce qui, quand même, peut renverser la balance.
Sauf que c'est une arme beaucoup trop forte pour qu'elle soit utilisée par le Parlement, du coup. Enfin, du coup, c'est...
À partir du moment où si on considère qu'il n'y a pas... de majorité pour voter un texte, mais qu'il n'y a pas, à l'inverse, de majorité pour dissoudre un gouvernement, ça met un peu la balance dans... Enfin bref, c'est l'arsenal qui permet de constituer la 5ème République comme un régime, bon, on dit semi-présidentiel, mais qui est quand même très présidentiel et très incarné. Mais depuis la Révolution française, on parle de la passion française pour la monarchie, et je crois qu'on n'en a pas fini avec ça. Bon, je me tais...
Et je vais laisser... transhistorienne pour la monarchie.
Non, nous sommes très démocratiques. Nos différents CA en témoignent. Donc je laisse la parole à Rémi, et avec cette question qui me turlupine. Comment vas-tu, Rémi ?
Ah, mais je vais très très bien, Mathias. J'ai passé de super vacances. Je suis d'attaque et je viens ici, le cœur sur la main, chers auditeurs, pour vous faire mes vœux pour cette année 2017.